Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba.
Ce mardi 5 octobre et depuis hier, l'actualité sur l'étendue de la RDC, c'est la rentrée scolaire. En ouverture de cette édition, notre correspondant depuis Lubumbashi nous présente la situation et les conditions de cette rentrée scolaire telle qu'elle est vécue dans le territoire de Malembankoulou. L'actualité, c'est également ce cri de détresse et SOS que lance l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté quant à la précarité dans laquelle vivent plus de 3000 familles victimes des inondations du lac Albert depuis un mois. Comme invité, nous parlons encore rentrée scolaire avec Jean Tshisekedi Kabasele, proviseur de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Il évoque la question de la gratuité de l'enseignement de base et ses corollaires. Fidèles auditeurs, bienvenue à cette édition des Midi et bonjour à toutes et à tous. Le coup d'envoi de la rentrée scolaire a été donné lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Haut-Katanga, le Lualaba et le Olomami, les cours ont certes repris, mais très timidement, surtout dans le secteur public. À Malembankoulou, dans le Olomami, certains enfants continuent à travailler dans les sites miniers. Le gouvernement provincial promet de traduire en justice ceux qui encouragent ce type d'activité. Des détails avec Jean Gandou.
À Lubumbashi, au deuxième jour de la rentrée scolaire, ce sont plutôt les écoles privées qui ont réellement repris les activités avec beaucoup d'élèves. Dans le secteur public, il y a des écoles où seuls les élèves sont visibles en l'absence de leurs encadreurs. Dans d'autres, les rares enseignants qui se font voir disparaissent aussi vite, laissant les élèves à leur triste sort. Dans le Lualaba, la réalité est la même. Spectacle similaire dans le Olomami. Cependant, dans les territoires de Malembankoulou, les leaders locaux ont continué à sensibiliser les parents de ceux qui avaient abandonné les écoles au profit des carrières minières à retourner sur le chemin de l'école. S'il y en a qui ont accepté, d'autres ne sont pas du tout pressés. Le gouvernement provincial promet de traduire en justice ceux qui exploitent cette main d'œuvre inadaptée. Wesley Ngoy Lukaya, ministre provincial de l'éducation dans le Olomami.
Le ministre des Mines et moi-même devrons être à Malemba pour non seulement retirer les enfants des mines, mais aussi décourager ceux qui les exploitent. De la même façon que l'on condamne l'utilisation des enfants dans l'armée, il est aussi également interdit utiliser les enfants dans les mines au gré de ceux qui veulent s'enrichir très vite. Dans les jours qui viennent, il y en aura qui seront déférés devant les instances judiciaires. Mais ça, c'est un crime. C'est chez les écoles où les intérêts gloutons des gens seront bel et bien arrêtés.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Nous continuons à parler enseignement. Ce mardi 5 octobre, la communauté universelle célèbre la journée mondiale des enseignants sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Radio Okapi fait un focus sur un enseignant, ses conditions de vie et de travail, mais aussi sur ce métier qu'il trouve noble, mais aujourd'hui négligé et auquel il faille redonner ses lettres de noblesse en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ilali Koko est allé à sa rencontre, suivez son reportage.
Du haut de ses 70 ans accomplis, robuste et environ 1m80, Kayembe Chikala Pierre est père de famille. Il est enseignant des français au degré moyen au complexe scolaire Sainte-Catherine, une école privée agréée catholique située au quartier Campem dans la commune de Lancelle. Pierre nous reçoit dans sa classe en cette journée dédiée à sa profession. Il raconte ses débuts de carrière et son expérience.
Plusieurs années, ça ne suit quoi? J'ai travaillé d'abord quand j'ai terminé mes études universitaires. J'ai travaillé pendant 2 ans dans l'enseignement. Comme l'enseignement ne payait pas son nom, j'ai abandonné pour aller faire autre chose. Après 20 ans de carrière là où j'étais, j'ai eu la retraite et je suis revenu dans mon métier d'enseignant. Ça fera bientôt 7 ans que j'ai repris la craie, le métier d'enseignant.
Ensuite, Pierre définit son métier. Alors, comment l'enseignant passe-t-il sa journée de travail?
Je me réveille, je prends mon journal de classe, je prends les prévisions de matière, je regarde quel est l'enseignement que je vais donner ce jour. Je le prépare.
Naturellement, Pierre déplore ses conditions de vie et de travail et interpelle les autorités du pays, députés et sénateurs. Pierre s'est dit fier d'être enseignant, nonobstant ses conditions de vie peu enviables.
Deuxième titre de cette édition, en Ituri, plus de 3000 familles vivent dans des conditions déplorables à Maragipor, dans la chefferie de Wagongo, à 260 km au nord de Bunia. Il s'agit des personnes qui ont été victimes de l'inondation des eaux du lac Albert. Leurs maisons et les infrastructures scolaires et sanitaires ont été détruites il y a environ un mois.
Selon le coordonnateur de l'ONG Les Ambassadeurs de Bonne Volonté, qui revient d'une mission d'enquête dans cette entité, la plupart de ces personnes passent la nuit à la Belle Étoile et n'ont rien à manger. Ils sollicitent l'intervention urgente du gouvernement et des humanitaires. Martial Kizabiamongo.
D'après les enquêtes de l'ONG, les ambassadeurs de bonne volonté, plus d'un millier d'enfants en âge scolaire parmi les sinistrés risquent de rater cette année scolaire suite à la destruction des infrastructures scolaires par les eaux du lac Albert. Certains passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres dans des maisons, des fortides qui les exposent aux intempéries. Les coordonnateurs de cette ONG, Sylvie Hagenroth, ajoute qu'à part les conditions très difficiles d'hébergement de ces familles, ces vulnérables manquent à manger. Cette redoute la résurgence de certaines maladies dans leur milieu. Sylvain Hagenroth sollicite une intervention rapide du gouvernement et des humanitaires.
Les rivières qui submergent encore les milieux rendent difficile la circulation des enfants qui doivent fréquenter une école d'un bout à un autre. Et il y a nécessité que le gouvernement puisse rapidement déployer des grandes actions pour d'abord protéger cette partie du territoire de Mangui, mais aussi construire des logements.
Nous n'avons pas pu réussir à joindre la conseillère du gouverneur des provinces en charge des affaires humanitaires, Bounia Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, un civil autochtone a été tué à l'arme blanche par un militaire des FRDC dans la nuit de dimanche à hier lundi à Erengeti. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres au nord de Beni. Selon le président de la jeunesse du groupement Bambumba Kisiki, le présumé meurtrier s'est introduit dans le quartier habité par des pygmées pour en finir avec la victime. Il dit ignorer le motif de ce meurtre. Le récit de André Kitenge.
C'est aux environs de 21h que le drame s'est produit, indique le président de la jeunesse du groupement Bambumba Kisiki. Selon Germain Kakoulé, qui dit ignorer le motif de ce meurtre, le présumé meurtrier s'est rendu à Kasana Maboya, un quartier habité par des pygmées. Sur place, le présumé meurtrier a trouvé la victime par surprise avec son épouse devant leur hutte. Du coup, indique notre source qui cite l'épouse de la victime, le militaire et un adjudant s'est servi d'une baïonnette et d'un bâton pour tuer l'homme après l'avoir blessé grièvement à la tête. Après son forfait, il a été maîtrisé et arrêté par ses compagnons d'armes, ajoute toujours notre source. Contacté, l'auditeur militaire de la garnison Beni Butembo confirme la nouvelle. Le major magistrat Vicky Lopombo promet de suivre ce dossier jusqu'à son aboutissement devant les juges. Cette situation a suscité une vive tension entre pygmées et certains militaires des FRDC déployés dans la région. Pour le moment, indique notre source, le calme est revenu dans la région après l'enterrement de la victime hier lundi. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au moins 83 incidents d'exploitation et abus sexuels commis par les personnes travaillant pour le compte de l'OMS et du gouvernement congolais pendant la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. Ces cas ont été commis entre août 2018 et juin 2020 dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce rapport d'une commission indépendante instituée par l'OMS a été restitué hier lundi à Goma après sa publication officielle le 28 septembre dernier à Genève. Bernard Nyangi pour les détails.
Selon la coprésidente de cette commission, c'est en échange de promesses d'emploi que près de 73 femmes avaient été abusées sexuellement dans la zone de Beni Butembo au Nord Kivu pendant cette période, alors qu'en Ituri, l'équipe d'enquête a pu signaler environ 10 autres cas. Elle encourage la répression des présumés auteurs et que cette volonté de l'OMS pour élucider ces allégations soit prise pour un modèle, Madame Julienne Lusenge.
Il y a des enfants qui sont nés de ces actes. L'OMS a accepté d'avoir une commission indépendante. Toutes les agences, organisations humanitaires aussi, doivent prendre leur courage pour redorer l'image de la communauté humanitaire. On a remis les recommandations à l'OMS et on va suivre.
La conseillère du gouverneur de l'Ituri en matière de genre estime, elle, que ce rapport est une force de plus dans la lutte pour la protection de la femme. Docteur Jeanne Alacha.
Maintenant, il y a une publication officielle mondiale. Là, ça nous donne la force pour que les femmes dénoncent davantage. En Ituri, on a plus de 65 sites de déplacés. On peut trouver aussi encore des cas des abus. C'est pourquoi pour nous, c'est important qu'on puisse vraiment suivre de près les recommandations.
Rappelons que cette commission avait été constituée par le directeur général de l'OMS en octobre 2020 pour examiner les allégations d'exploitation et abus sexuels commis au cours de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola dans les deux provinces. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi au sud Kivu. L'aéroport national de Kavumu nécessite d'intenses travaux de modernisation de la piste d'atterrissage et autres installations. Constat fait par le directeur général ad intérim de la régie des voies aériennes RVA qui séjourne à Bukavu depuis 2 jours. Le point avec Emmanuel Elamenji Wakabidi.
L'aéroport de Kavumu, situé à plus de 30 km de la ville de Bukavu, mérite une attention particulière en vue de sa modernisation. La piste d'atterrissage, actuellement longue d'environ 2000 mètres, doit être retouchée afin de prévenir tout danger. Mais aussi le balisage de cette piste pour favoriser les atterrissages et décollages nocturnes. Constat fait lundi par le directeur général AI de la RVA, M. Alphonse Chungu, qui séjournait à Bukavu. Le directeur général de la RVA constate que l'aéroport de Kavumu dépend actuellement en grande partie de la MONUSCO Bukavu, surtout en termes de l'énergie électrique. Ainsi, Alphonse Chungu prend-il l'engagement de régler cette question pour permettre à la RVA Bukavu de faire fonctionner ses installations en toute autonomie par le système solaire avec des panneaux photovoltaïques. Signalons que c'est l'aéroport de Kavumu qui avait servi de secours d'atterrissage des avions lors de la fermeture provisoire de l'aéroport de Goma en juin dernier. Plusieurs voix s'étaient levées pour réclamer la modernisation de toutes les installations aéroportuaires. Emmanuel Elamegi Wakabedi, Bukavu Radio Kapi.
Retour dans la province du Nord Kivu où une cagnotte de 100 millions de dollars est injectée par le gouvernement congolais pour la promotion plutôt du développement rural dans 145 territoires de la RDC. C'est entre autres pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. C'est le ministre national de l'Agriculture qui l'a révélé à la presse hier lundi à Goma. C'était au cours du lancement des travaux de construction de l'entrepôt des pommes de terre d'une capacité de 500 tonnes. On écoute Désiré Birianze au micro de Denise Loukesso.
Le gouvernement dit des warriors, il s'attelle à résoudre toutes ces questions. C'est comme ça que nous avons lancé les projets de développement des 145 territoires que nous avons dans le pays. Et une cagnotte de 100 millions de dollars, ça va être injecté dans les territoires. Donc ça servira à développer les routes de cet agricole, à refaire la vie dans les territoires en fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la territoriale. Vous trouverez les athées qui n'ont plus de logement, les administratifs qui n'ont plus de logement. Mais c'est tout un plan qui est en exergue et que le gouvernement se prépare pour le faire avant 2023. Donc nous sommes en train de faire renaître le pays, de reprendre la place que nous avions dans le concert des nations.
Actualité internationale.
En Angola, à partir du 15 octobre, les usagers et les utilisateurs des services publics et privés doivent montrer patte blanche. Le gouvernement angolais ayant décrété l'obligation vaccinale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À Luanda, la capitale angolaise, des populations faisaient la queue pour se faire vacciner. Mais pour recevoir le précieux liquide, il fallait faire preuve de patience. Une organisation qui tranche avec l'objectif visé par le pays, vacciner 60% de sa population éligible. Les troupes éthiopiennes et une milice de la région d'Amara du pays se sont mobilisées à la suite d'une série d'attaques menées par les forces du Tigré. La guerre qui a débuté en novembre dernier s'est d'abord limitée à la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Les récits d'atrocités sont souvent apparus longtemps après qu'elles se soient produites. Les Tigréens ont décrit des viols collectifs, des massacres et des famines forcées perpétrées par les forces fédérales et leurs alliés d'Amara et de l'Érythrée voisine.
L'invité.
Notre invité est Tshisekedi Kabasele, Jean Provet de la province éducationnelle de Kin Plateau. La rentrée scolaire de ce lundi 4 octobre, bien que timide, a été effective dans sa juridiction éducationnelle, affirme-t-il. Il évoque la question de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base et interpelle également l'opinion sur la tension à accorder au métier de l'enseignant à l'occasion de la célébration ce mardi 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Tshisekedi Kabasele, Jean, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur l'effectivité ou non de la rentrée scolaire?
Oui, oui. Aujourd'hui, il était question de faire des rondes dans la province éducationnelle de Kin Plateau où je suis le responsable. La rentrée scolaire a eu lieu en bonne et due forme. J'ai eu à faire des rondes dans des écoles privées, dans des écoles publiques, des avant et après-midi. J'ai constaté que les enseignants on respectait d'abord de un les calendriers scolaires qui étaient déjà publiés pour la rentrée scolaire qui était fixée pour les 4. Même dans des écoles privées, il y avait des enfants, il y avait des enseignants. Même dans des écoles publiques conventionnées et non conventionnées, je vous dis, ici chez nous, la rentrée scolaire a été liée à bonne et due forme.
Cette rentrée scolaire s'est faite dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19. Quelles sont les dispositions que vous avez prises à ce sujet en ce qui concerne non seulement la protection des enfants, mais aussi de votre corps d'enseignant?
C'est depuis un temps que nous avons eu à instaurer un système de respect des mesures barrières dans nos écoles. C'est-à-dire, à l'entrée, il y a quelqu'un, les gardiens, avec un thermoflash. Dès que vous entrez, on va d'abord prélever la température. Après, et vous allez passer à le lavage des mains, vous lavez les mains. Et après, vous allez vous diriger maintenant dans les bureaux ou dans des salles de classe pour les enseignants ou les enfants.
Est-ce que vous avez tenu compte de l'espace qu'ils doivent respecter les enfants, la distanciation sociale?
Oui, je vous dis effectivement, la distanciation sociale est respectée. On exige aussi des cache-nez. Si peut-être auparavant, c'était 3 enfants par banc, mais maintenant cette fois-ci, on a eu à faire un peu la distanciation sociale, 2 enfants par banc, avec la distanciation qui est respectée.
Comme dans toutes les rentrées scolaires, quelles sont les grandes difficultés que nous avons ici?
Oui, comme vous le savez bien, messieurs les journalistes, nous sommes dans des communes ribano-rurales, dans notre province éducationnelle. Et les enfants, souvent, au débit, ne se présentent pas en masse. Ils attendent la première semaine, deuxième semaine, ils vont venir. Ils pourront maintenant se présenter.
À quoi cela est dû?
C'est-à-dire, les parents pensent que les cours reprennent mieux qu'à la deuxième semaine ou troisième semaine.
Est-ce que vous ne vous expliquez pas cela par le fait que les enfants français communes, les parents soient assez pauvres, ils rencontrent des difficultés d'ordre financier pour essayer de supporter les études de leurs enfants?
En quelque sorte, oui, mais sinon, c'est les mêmes parents qui payent les études de leurs enfants. Je vous dis en quelque sorte, parce que ici, comme vous le savez bien, il y a aussi des parents qui vivent à partir de leur champ, ils vivent que de ça.
Revenons un peu en arrière pour parler de la gratuité de l'enseignement. Vous pouvez faire un bref bilan de l'effectivité dans votre sphère éducationnelle?
Oui, je vous dis ici chez nous que ça a été respecté. Nous, on dit la gratuité au niveau des écoles primaires ne se négocie pas. Et ici chez nous, dans la province éducationnelle de Kin-Plateau, dans des écoles publiques, c'est la gratuité totale. Ça a été respecté.
Et pour terminer, monsieur le Provède, aujourd'hui, le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Qu'est-ce qui vous inspire cette célébration et quels sont les messages que vous, en tant qu'éducateur, vous lancez à toute la population qui vous écoute en ce moment?
En tant qu'enseignant, nous célébrons la journée du 5 octobre dans la joie parce que nous sommes honorés, nous les enseignants, nous les formateurs. Ce que nous pouvons dire aux gens qui veulent aussi devenir des enseignants, debout ou assis, c'est d'emboîter les pas. Un enseignant, c'est quelqu'un à encourager parce que c'est un travail très dur que beaucoup ne comprennent pas.
Tshisekedi Kabasele, Jean, merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Vous venez de suivre le Provède de Kin-Plateau qui s'entretenait avec Jean Pierre Elali Ikoko par rapport à la rentrée scolaire qui a démarré depuis hier, 4 octobre, sur toute l'étendue de la République. Et voilà qui met fin à cette édition de Journal Parlé, assurée, mise en onde par Dieudonné Jean-Noël Mokondo, préparée par Noël Aluzitou et Martin Sebujangwe. Billy Yvan Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Le prochain rendez-vous avec notre édition d'information, c'est tout à l'heure à 13h de Kinshasa.